Et tout de suite, Le Voyage Radiophonique, un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Racine, de Kiun Wilput et Marie-Beth Bèze.
Je m'appelle Kyun, je suis née en Corée du Sud, j'ai été adoptée. Mon prénom représente bien ma quête identitaire. Je ne sais pas comment le prononcer. Kyun? Kyung, comme je l'entends ici en Belgique? Ou alors Kyung, comme je crois qu'on le prononce en Corée? Vers 26 ans, je découvre l'art du conte, l'art de raconter des histoires sur scène à un public. Je décide d'en faire mon métier. Très vite, j'ai envie de partager une partie de mon histoire. Mais pour en dire quoi? Les années passent. Au bout d'un moment, j'ai besoin de discuter avec une personne qui partage les mêmes origines que moi et qui connaît l'histoire de l'adoption internationale en Corée. C'est comme ça que je discute d'abord avec Kimura Biol Lemoine.
Je me considère personne non genrée, d'origine coréano-japonaise, adoptée en Belgique en 1969 et artiste activiste, et maintenant avec mon âge bien avancé, archiviste.
En 1991, Kimura crée en Belgique l'association EKL, Euro-Korean League. Deux ans plus tard, Yel part en Corée pour fonder une branche coréenne, EKL Korea. IEL fait aussi des recherches pour les personnes adoptées sur leur famille biologique. Et bien plus encore.
En Corée, c'est une société confucianiste. La garde de l'enfant est au père, pas à la mère. Le fait que la mère n'a pas de registre familial personnel, elle appartient à un homme, souvent à son père, ou après son père, c'est le mari. Et si le mari est mort, à son fils ou à un oncle ou à un frère. C'est pour ça que les mères, même si elles voulaient garder leur enfant, elles ne pouvaient pas inscrire un enfant sur le registre d'un autre homme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'adoptions internationales. Avec des groupes d'activistes coréens, on s'est battu pour qu'elles aient un registre personnel. À partir du moment où elles ont eu le registre personnel, je pense que c'était en 2005 ou 2008, les adoptions internationales en provenance de Corée ont diminué drastiquement.
Kimura me fait prendre conscience que l'adoption internationale et interraciale recouvre des réalités multiples et variées. Elle dépasse le niveau individuel, les actes de tendresse, d'amour, le mal-être ou les violences. Il s'agit d'un système. Qu'en pensent d'autres Coréennes adoptées? Et quelles sont leurs histoires? J'envoie quelques messages et quelques jours plus tard, je rencontre Mélanie. On est toutes les deux nées dans les années 80. Elle est un peu plus jeune que moi.
J'ai été adoptée à 7 mois par des Wallons. Et voilà, j'ai un frère d'origine bolivienne qui a 6 ans en plus que moi. Enfin, moi, je ne le savais pas. Je pensais que toute ma famille était morte. Et que c'était pour ça que j'avais été adoptée. C'est pas ma famille adoptive qui m'a menti, mais c'est juste qu'en tant qu'enfant, je me suis créé ça comme histoire. Et donc, j'ai grandi avec cette histoire. Je me suis jamais trop posé de questions sur mes origines ni ma famille biologique. J'avais pas une envie très forte de les retrouver. J'ai appris plus tard, après les avoir retrouvés, que mes parents avaient été séparés parce que mon père a dû aller en prison pendant un an. Du coup, ma mère a été seule avec ses deux filles, plus moi qui allais arriver. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils ont décidé de me placer dans un orphelinat. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas, c'était temporaire, quoi. Ils voulaient me récupérer, donc le temps qu'ils se rétablissent financièrement. Quand ils ont voulu me récupérer, j'étais plus là parce qu'on m'avait donné en adoption, quoi.
T'as été adoptée contre leur gré?
Oui, bien sûr, mais ça arrive souvent dans les adoptions. C'est du vol d'enfants, quoi, souvent.
Oui, ça c'est sûr, il y a des vols d'enfants. Ayant fait plus de 1000 recherches maintenant, je pense, et en ayant trouvé au moins 300-350 familles, on s'est rendu compte que dans le discours des papiers d'adoption et le discours réel des parents biologiques, il y a vraiment beaucoup de changements d'histoire.
Peu de temps après, je me rends chez Alexandra. Sa sœur jumelle, Laetitia, est déjà là. Elles se ressemblent énormément. Et elles sont très complices. Ça me rappelle que petite, je rêvais d'avoir une sœur jumelle.
Ma sœur jumelle et moi, Laetitia, on a été adoptées quand on était bébé. Donc on est restés toujours ensemble. On est arrivés en Belgique, on avait 9 mois. On ne s'est pas posé trop de questions par rapport à notre adoption. Moi, je me sentais belge. Je savais qu'un jour, j'irais peut-être en Corée visiter, voir mon pays natal. Mais voilà, la vie continuait. J'ai fait mes études. Pas trop de questions, on va dire ça comme ça.
Enfin, j'ai l'occasion de discuter avec Aude. Alexandra et Laetitia sont arrivées dans le milieu des années 70. Aude, elle, fait encore partie d'une autre génération.
J'ai été adoptée en 1969 et je suis née en mai 68. Mes parents n'avaient pas d'enfants, étaient touchés par la guerre au Vietnam. Ils voulaient adopter une petite fille vietnamienne. Donc la petite fille vietnamienne, normalement tout était lancé, s'appelait aussi Aude Spagnard, normalement. Et puis ils ont arrêté les adoptions et on dit mais c'est pas grave en fait, nous avons des Indiens et des Coréens, c'est nouveau. Donc mes parents disent ouh, Indien c'est un peu foncé. Coréens, c'est l'Asie, ils sont intelligents, travailleurs et tout ça, et voilà. En 3 mois de temps, Aude Spagnard vietnamienne s'est transformée en Aude Spagnard coréenne. Dans mon temps, il n'y avait pas d'affectivité. Enfin, je veux dire, dans les Coréens que je connais, de mon âge, de ma tranche d'âge, il n'y avait pas tellement d'affectivité. C'est venu un peu plus tard dans les adoptions. Les gens rendaient service à des pauvres petits-enfants. Je pense que les parents adoptifs étaient remerciés de leur bonté. Ils avaient fait une bonne action.
Toutes les quatre me partagent leur histoire. Je leur partage la mienne. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 4 mois et demi. À l'aéroport, ma maman m'a presque arrachée à l'homme qui me tenait dans ses bras. Elle m'a blottie contre son cœur, elle a posé un baiser sur mon front et elle a dit oh, « C'est moi, c'est ta maman hein. !» Et aux gens qui lui demandaient si elle savait ce qui était arrivé à ma vraie maman, elle le répondait avec son bel accent bruxellois. « Mais elle est là, devant vous, sa vraie maman. » C'était une femme petite, maladroite. Elle riait volontiers et elle avait un grand cœur. Directement, elle m'a aimée, comme si j'étais sortie de son ventre. Je l'avais faite mère. C'était ma petite maman. Pourtant, ce n'était pas si simple. Quelques jours après mon arrivée, mes parents m'ont amenée chez leur médecin de famille. Elle ne réagit pas quand on l'appelle. On a peur qu'elle soit sourde. Regardez. Kyun, Kyun, voyez ? Le médecin a frappé dans ses mains. J'ai pleuré. Il leur a simplement expliqué que je ne reconnaissais pas les sons de la langue française.
J'étais en pouponnière, j'ai été voir les bébés qui allaient être adoptés. Je me dis qu'il y a aussi un contact qui va se faire avec les bébés entre coréens et blancs. Ils entendent parler coréen et puis d'un coup, ils entendent parler une autre langue, ils voient une autre tête.
J'étais enfant unique. J'avais des caisses et des caisses de jouets, de poupées, de peluches. Tous les vendredis soirs, on mangeait des frites. Et le samedi matin, je regardais le Club Dorothée. J'adorais aller à l'école, retrouver mes copines. Pourtant, adolescente, je me sentais souvent seule, même quand je n'étais pas. Le soir, je me tournais et me retournais dans mon lit. J'arrivais pas à m'endormir. J'avais un vide en moi, une sorte d'angoisse constante.
En Corée, j'ai été sur un bateau avec ma petite sœur, parce que moi j'aime être sur l'eau, j'aime bien les bateaux, et donc j'ai dit, allez, on va faire une promenade en bateau. Et je m'étais couchée sur le bateau, et là j'ai eu, je sais pas, c'est comme si ma grand-mère ou quelqu'un me disait, mais en fait, mais pourquoi, comment ça se fait que t'as toujours cru que t'étais une merde? C'était en mode, mais n'importe quoi. Et ouais, j'ai commencé à pleurer, c'était... Je crois que d'office, que le fait d'être abandonné, ça inculque qu'on est d'une moins bonne qualité.
Ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que, même en tombant très bas, je remonte comme un gnocchi. Voilà. C'est plus ou moins l'impression que j'en ai. Par moments, ça me dépasse aussi parce que j'ai eu des trucs un peu durs et chaque fois, je suis remontée. Je me dis que maintenant aussi, je remonterai quand même à la surface. Alors je pense aussi peut-être que si on est encore en vie, c'est qu'on a la force de pouvoir remonter, puisqu'il y en a beaucoup qui sont décédés quand même.
En Suède, par exemple, il y a eu des études psychologiques. L'étude, c'était parmi les adoptés, que ce soit les Suédois adoptés en Suède, les adoptés de couleur, adoptés tous par des Blancs, évidemment, c'est le plus haut taux de suicide. Et parmi ces personnes de couleur, c'est les Coréens qui sont le plus haut taux de suicide.
Je me souviens que parfois, genre mon frère, il écoutait de la musique dans sa chambre. Je me couchais sur le lit avec lui et j'écoutais et je pleurais. Je savais pas pourquoi je pleurais. Pour moi aussi, c'est pas si simple d'exister. Je pense aussi que j'ai grandi avec la peur de déranger, de mal faire. Ouais, c'est peut-être lié à l'adoption, hein. Je sais pas trop.
Je travaillais sur la thématique du trou. Sur toutes mes sculptures, mes installations, il y avait un trou. Est-ce que le trou était un trou conscient ou pas? Pas au départ. Oui, après. Je ne travaillais pas sur l'adoption à ce moment-là, quoi. Je travaillais sur le trou, en tridimension. Et donc, en parlant avec tous ces Coréens adoptés, ils parlaient de ce trou qu'ils avaient comblé, soit par l'alcool, soit par l'art.
Quand on est adopté, qu'on arrive seul dans une famille, c'est pas du tout la même chose que d'être à deux. Beaucoup d'amis nous ont parlé de la difficulté de pouvoir ressembler aux autres, mais nous, en plus, on était jumelles, on est arrivés à deux. On a vécu ça différemment puisqu'on avait déjà un miroir l'une et l'autre.
Peut-être que le lien qui était coupé quand nos parents nous ont mis en adoption, le lien, on l'avait entre nous.
Vers mes 20 ans, mes parents se sont séparés. J'allais voir ma maman toutes les semaines. Un jour, j'ai retrouvé en pleurs, confuse. J'ai vaguement compris que mon père voulait la faire chanter, qu'il menaçait de tout me révéler. Ma maman m'a donné une farde grise à rabat. C'était mon dossier d'adoption. Pendant tout ce temps, il était dans un coffre à la banque. Toutes mes interrogations me sont revenues en pleine figure. Il faut dire qu'à chaque fois que je posais une question à ma maman sur mon adoption, elle me disait qu'elle ne savait rien. Mais au fond de moi, je savais qu'elle me mentait. Est-ce que les autres parents, eux, disaient la vérité?
Mes parents m'avaient dit, quand j'étais petite, que mes parents étaient trop pauvres pour s'occuper de moi. Celle qui représentait l'adoption... des hommes. On leur avait dit à ce moment-là que c'était probablement des enfants de GI mixtes. et qu'on m'avait trouvée dans une poubelle. Il faut sortir de l'état de déchet.
Sans un mot, j'ai pris le dossier. Je l'ai feuilleté. Du papier jauni dactylographié en coréen, des traductions en anglais, en français. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je découvrais des bribes de vérité, comme mon nom complet, des informations médicales, la situation d'une famille d'accueil chez qui j'étais restée, l'âge de mes parents. Mais toutes ces questions-là, elles en ouvraient de nouvelles. Qui avait choisi mon prénom? Ma mère m'avait-elle tenue dans ses bras? Quelqu'un m'avait-il expliqué la situation? Ma maman pleurait, guettait ma réaction. Et puis j'ai lu. L'enfant est le premier-né des jumeaux et l'autre est de sexe masculin. J'ai fusillé ma mère du regard. Je le savais, j'ai un jumeau. Pourquoi tu m'as rien dit? Et là, elle m'a répondu en pleurs sa fameuse petite phrase magique. Oh, mais tu sais bien, c'est comme si c'était sorti de mon ventre, hein? Celle qu'elle disait à chaque fois qu'elle ne savait pas quoi dire. Pourtant, en me disant ça, elle me coupait à nouveau de mes racines.
Ça les a beaucoup angoissés, surtout ma mère, parce que c'est comme si j'allais abandonner sa famille pour une autre famille. Et elle me... Mais oui, j'ai pas du tout envie de me justifier, de commencer à rassurer, alors que je trouve que les parents adoptifs devraient quand même parfois se douter que les enfants adoptés ont envie de cultiver un lien à leur passé, quoi. Ouais, mes parents, je pense qu'ils ont vraiment voulu effacer mon passé. Moi, je leur en veux pas parce que ouais, c'est peut-être des peurs qui ont fait ça. C'est une immaturité émotionnelle, j'ai pas envie de devoir m'occuper de ça. Enfin, j'ai juste envie de m'occuper de ma relation à ma famille coréenne. Et j'ai un peu de honte de parler de ma famille coréenne à ma famille belge, en fait. J'ai l'impression d'être une traîtresse, enfin, de pas être fidèle à ma famille belge. C'est injuste que ce soit comme ça. J'ai un passé et c'est normal.
Après avoir vu nos parents pour de vrai, elle a posé plus de questions en se demandant si on regrettait pas de pas être resté là-bas, si on était heureuse de notre vie ici en Belgique.
Si on l'aimait autant, on a dû chaque fois la réconforter sur sa place de mère, si on l'aimait autant que nos parents coréens, alors que pour nous, c'est quand même notre première maman. Et nous, c'est l'inverse. Et à partir du moment où elles se sont rencontrées, on a eu un poids en moins. Et on était content de vivre avec deux familles.
Après avoir été diplômée, j'ai trouvé un travail à Bruxelles. Avec une amie, on s'est trouvé un petit appartement. Une après-midi, il faisait beau, je suis sortie me promener. Je me suis retrouvée sur la Grand Place. Tout d'un coup, j'ai senti des petits tapotements sur mon épaule. J'ai sursauté. Un vieux monsieur me montrait du doigt une femme. Elle tenait en l'air un parapluie fermé avec un petit drapeau. Là. Bah, quoi là? Your group! Un peu plus loin, un groupe de Japonais. Hein? Mais je suis pas une touriste, moi.
Ce qui m'a vraiment super touchée, émue. Là-bas, les enfants me regardaient comme ma fille me regarde. C'est-à-dire un regard normal, un regard d'enfant, sans curiosité, sans questionnement.
En Belgique, on nous demande quand même toujours comment ça se fait qu'on parle bien français, vous venez d'où, quelle est votre origine.
Ici, en Belgique, on nous regardait toujours, ma sœur et moi, un peu comme des bêtes curieuses.
Nous, on est... Enfin, très petite pour la Belgique, on est même hors norme. C'est vrai que le sentiment d'appartenance et de ressembler physiquement, ça, je ne l'ai connu qu'en Corée. Physiquement, ça fait du bien de se sentir comme toutes les autres.
Ce soir-là, je me suis examinée devant le miroir.
Je me voyais blanche avec de grands yeux, moi. Oui, j'étais asiatique, mais c'était un concept, ce qui me donnait une particularité en Belgique. Et en même temps, ça ne me rendait pas différente des autres. J'étais complètement sur les nerfs. J'ai tout raconté à ma coloc. Elle a ri. Allez, viens, la jaune. On va boire un verre. Ça va te faire du bien. Oh, c'est bon, fais pas cette tête-là. Il paraît que nous, les rousses, on sent mauvais. Alors...
L'identité, c'est aussi les images que les autres ont de toi et te renvoient à la tête. Shintok. Ou bien l'image, oui, qu'ils te renvoient. Puisque eux te voient comme étranger, toi, tu te vois comme belge.
En Corée, tout le monde disait que j'étais belle et du coup, ça m'a aussi fait du bien. C'est un peu bête, mais quand tu vas dans une culture où c'est des autres critères de beauté, bah, tu as une autre image de toi qui vient avec, quoi. Mais c'est ça, maintenant, je me trouve belle. Mais après, ça dépend des jours. Hein. C'est surtout comment je me sens à l'intérieur qui compte. Donc, c'est ça qui va donner comment j'ai l'air à l'extérieur, je pense.
Presque 4 ans après avoir reçu mon dossier, je me suis décidée. J'ai écrit à l'agence d'adoption belge Sourire d'enfant. Bonjour. J'aimerais une photo de ma mère biologique et de mon frère jumeau. J'aimerais savoir ce que ma famille est devenue. L'agence m'a appelée, on a fixé rendez-vous.
Est-ce que du coup ta famille avait laissé des informations pour que tu puisses facilement les retrouver? Ce genre de choses?
Oui, dans un dossier... Le dossier d'adoption, j'ai tous les noms et prénoms de mes parents, leur année de naissance. Je ne sais pas s'il y a la date complète, je ne pense pas. Il y a le nom de mes sœurs aussi. Mais je crois qu'il y a le nom de ma mère qui n'est pas juste, mais à part ça, tout est correct.
Comment tu as retrouvé ta famille, du coup?
Sur Facebook, parce que j'ai appris que vers mes 21 ans, que j'avais une famille, en fait. Enfin, biologique. J'y suis allée un an après les avoir retrouvés sur Internet. Et pendant un an, j'ai étudié le coréen. Enfin, je me suis préparée, quoi. Et ouais, j'étais vachement excitée. Enfin, j'avais comme un sentiment d'être amoureuse, mais de mes sœurs, enfin, de ma famille, quoi, comme ça. Bon, après, il y a eu la désillusion lors de la rencontre. Enfin, parce qu'avec les écarts culturels, il y a eu des blessures, des incompréhensions. J'y suis retournée, je crois, 11 ans plus tard. Et après... Là, j'ai senti vraiment qu'il y avait un lien familial.
J'avais pu regarder mon dossier, mais il était marqué « no record ». Donc, je n'ai pas cherché, puisqu'elle avait été adoptée très tôt. J'étais venue à un an. Je faisais partie des premiers adoptés coréens. Les dossiers n'étaient pas très rangés, il n'y avait pas de traces. Il n'y avait que des suppositions et des petites erreurs dans les dossiers, volontaires ou pas. Donc c'est difficile, les traces sont difficiles à suivre. Dans les années 80, c'était un peu mieux suivi. On parlait d'amour à ce moment-là.
Sourire d'enfant a fait les recherches pour moi. 2 mois plus tard, j'ai reçu un mail d'une assistante sociale. Elle me transférait une lettre de leur personne de contact là-bas. Cette personne travaillait pour le Social Welfare, l'agence d'adoption coréenne. Elle avait retrouvé ma mère. Mais personne n'était au courant de mon existence, et surtout pas mon frère jumeau. Ma mère était terrorisée à l'idée qu'ils l'apprennent. Pourtant, elle voulait avoir de mes nouvelles. L'assistante sociale demandait que j'envoie une photo et une lettre. Je les ai envoyées le jour même. 2 longues années ont passé. Je n'osais plus espérer de réponse. Un jour, j'ai reçu un mail avec 2 documents. Sur l'un, il y avait juste 2 mots en anglais traduits du coréen. Pardonne-moi. Sur l'autre, il y avait 2 photos. L'une avec un couple, l'autre avec un petit garçon. Mon regard s'est d'abord attardé sur la femme. Elle avait les cheveux coupés courts, noirs, épais. Un gros nez, des yeux tout petits. Je ressemblais pas beaucoup. Et le petit garçon, il devait avoir quoi? 5-6 ans? Mais quand j'ai vu son visage, c'était moi, exactement au même âge, comme si je m'étais dédoublée et que j'avais vécu une vie là-bas et que je m'en souvenais plus.
Voilà, on sait qu'on a des parents biologiques et on n'a pas d'image. On n'a pas d'image. Et là, voir à quel point il y avait des ressemblances physiques. Et c'est drôle puisque ma sœur et moi sommes vraies jumelles. On se ressemblait très très fort jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Et puis après, on a un peu changé de look et il y a eu plus de différences. Et je ressemblais beaucoup plus à mon frère et à mon papa. Et ma sœur à ma maman, alors qu'on est vraies jumelles, c'était un peu incroyable.
Entre-temps, je m'étais mariée. Mon mari avait toujours voulu être papa. Moi aussi, je voulais être maman. Je voulais porter un enfant depuis longtemps, mais je trouvais toujours une excuse pour repousser.
Tu disais que tu avais besoin de savoir avant d'être maman.
Oui,
tout à fait. Et toi, par contre, tu as déjà eu un enfant avant, donc je me demandais un petit peu comment ça avait joué, tout ça. Enfin,
au fond de moi-même, j'avais l'impression que j'avais besoin de connaître la Corée avant la maternité. Même si je ne m'étais pas dit dans ma tête, tu dois aller en Corée, sinon tu ne seras jamais complète et tu n'auras pas d'enfant. Mais j'ai vécu la rencontre, les retrouvailles avec la famille. Et c'est quand même bien après que je suis devenue maman, c'est pas arrivé tout de suite. Donc voilà. 2006, la première rencontre. 2011, je suis devenue maman. Donc voilà, ça a pris du temps à la digestion.
Je ne sais pas si c'était plus facile à gérer. En tout cas, moi, dans mon cas, Sacha, il avait 2 ans et demi. Par contre, quand il est né en 2003, qu'on me l'a mis dans les bras, c'est comme si je vivais un flashback. Je me suis dit, tiens, notre maman en Corée, est-ce qu'elle a pu vivre la même chose ?
De mon côté, 3 ans après avoir reçu les photos, j'ai eu ce qu'on appelle un accident. J'étais enceinte. Je doutais de pouvoir être une bonne mère. Mais j'avais 28 ans, et tout doucement, je me suis faite à l'idée. Mais j'ai fait une fausse couche. Les jours suivants, j'ai pleuré. Et si c'était ma faute ? J'ai retrouvé mon dossier d'adoption. Je l'ai lu, je l'ai relu. Je voulais être mère. J'ai su ce que je devais faire. J'ai écrit en Corée.
10 juillet 2013. Je me suis mariée. Je t'envoie une photo. Pourrais-tu m'en dire plus sur mon histoire ? J'ignore ce qui me pousse à te contacter. Je pense qu'il y a des questions auxquelles je veux répondre avant de fonder moi-même une famille, sereinement, avec celui que j'aime. Kyun.
Et 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre.
2013년 12월 27일 경은이에게 몇 년 전 내가 너의 소식을 들었을 때 너무 마음이 아파서 너에게 답장을 할 수가 없었다.
Cher Kyun Eun, il y a quelques années, quand j'ai eu tes nouvelles, j'étais très mal et je n'étais pas capable de donner une réponse. C'était si difficile. Je ne pouvais même pas me souvenir de ton nom. Ça a été une décision compliquée de prendre contact avec toi. Mais il n'y a pas un jour, durant ces années, où je n'ai pas pensé à toi. Il y a 29 ans, j'ai donné naissance à toi et ton frère jumeau. J'étais en mauvaise santé et je n'étais pas capable de vous élever tous les deux. Je t'ai fait une chose si terrible. Peut-être, maintenant, si c'est permis, je pourrais prononcer ton nom à voix haute.
Kyun-eun.
Kyun-eun. Kyun-eun.
너를 키워준 부모님에게 너를 얼마나 잘 키워주셨는지.
S'il te plaît, dis à tes parents à quel point ils t'ont magnifiquement élevé, à quel point je suis reconnaissante envers eux.
Kyun-eun.
Kyun-eun. J'aimerais rester en contact avec toi en échangeant des lettres. Et c'est ce que veut toute ma famille ici. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman.
Il m'a bien fallu une semaine pour lui répondre. Cher. Ma chère. J'ai tant de questions. Je veux te connaître maintenant. Je ressens un lien fort entre nous. Je t'ai déjà pardonné. Maintenant, il faut que tu te pardonnes toi-même. Pour toi, pour moi. C'est ce que je veux. J'imagine que ça doit être très difficile. Peut-être avec le temps. Kyun. On a continué à échanger. J'ai même reçu des lettres de mon frère jumeau, Dae-hee. Avec lui, je parlais de notre mère. Et petit à petit, le lien avec ma famille prenait forme. J'ai pu nommer ma mère « maman » et lui dire que je voulais la rencontrer. Et surtout que j'attendais un enfant. Voici ce qu'elle m'a répondu un an après ma première lettre.
Le 25 juillet 2014, cher Kyun Eun, quand j'ai appris cette bonne nouvelle, j'étais heureuse. Mais je n'ai pu m'empêcher de me sentir coupable. Pendant les vacances traditionnelles en Corée, toute la famille se réunit et partage un repas. À chaque fois, tu te rappelles à moi dans ces moments et cela brise mon cœur. J'aime tellement le mot « maman » dans ta bouche. Je crois que nous pourrons nous rencontrer un jour. Maman.
Parallèlement, à de rares moments, je commençais à voir mes traits asiatiques dans le miroir. Petit à petit, mon esprit se rendait en Corée. À 30 ans, j'ai accouché d'une petite fille. L'accouchement était difficile, césarienne sous anesthésie générale. Quand je me suis réveillée, je gardais ma petite serrée contre moi. Pourtant, c'était comme si elle était loin de moi, comme si je ne réalisais pas qu'elle était sortie de mon ventre. Mais je devais l'aimer. Je devais être là pour elle, réparer les erreurs du passé.
La recherche a été faite quand j'étais enceinte, évidemment, de mon premier bébé, parce qu'à ce moment-là, je me dis « ah oui ». Ici, je suis très heureuse, vraiment, je suis vraiment très, très, très contente. Mais c'est peut-être que ma mère, elle n'était pas contente du tout de m'avoir dans son ventre à ce moment-là. Et j'ai commencé à y penser et à contacter quelqu'un qui s'occupait de post-adoption.
Je trouvais ça très difficile d'être mère. J'étais si fatiguée, j'avais si mal. Mais petit à petit, j'ai créé le lien avec ma fille et je l'ai aimée plus que tout au monde. C'est elle qui m'a donné l'envie d'être en vie. Une nuit, ses petits cris m'avaient à nouveau réveillée. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai allaitée. J'ai regardé Tété goulûment, se rendormir, rassasier, apaisé. J'ai repensé à tous les moments qu'on avait vécus ensemble. J'ai repensé à une photo que j'avais reçue de ma mère là-bas en Corée. Et puis aussi à la photo de ma maman à l'aéroport de Zaventem avec moi dans ses bras. Et là, j'ai réalisé. Ma fille avait 4 mois et demi. Elle a eu ce que moi, je n'ai pas eu avec une mère. Et moi, j'ai eu ce qu'aucune de mes deux mamans n'a eu avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller en Corée.
En fait, j'ai été voir un spectacle de danse coréenne. Une chorégraphe que j'aime bien, Eun Mi-han, on l'appelle ici. Et en fait, j'ai commencé à je sais pas, comme si mon plexus solaire tremblait, enfin, mon ventre tremblait pendant le spectacle. J'étais triste, quoi. Enfin, il y avait plein d'émotions qui sortaient d'un coup. Et après, le lendemain, j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré pendant 2-3 jours, je crois. Et j'étais comme dans une crise existentielle. Et je me sentais hyper paumée, vide comme ça, émotionnellement. Mais je savais pas pourquoi. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc plus fort que moi qui a émergé. Donc, c'est peut-être mes ancêtres qui m'appellent. Et donc, c'est... ça m'émeut, pardon. Je ne m'attendais pas à être aimée en parlant de ça. Bah, du coup, oui, je me suis dit, ah, bah, c'est que tu dois partir, parce que je dois y retourner, sinon ce ne serait pas aussi fort. J'ai décidé de renouer avec mes racines. Un coup de tête, quoi.
Pendant plusieurs mois, j'ai planifié notre voyage. On a décidé de partir 3 semaines en octobre. Notre fille aurait alors 20 mois. J'ai contacté Sourire d'enfant. Je leur ai demandé si l'association pouvait organiser un rendez-vous avec ma famille. Très vite, j'ai reçu une confirmation. Mon frère acceptait une rencontre. Elle se déroulerait dans les locaux du Social Welfare, avec un ou une interprète coréen-français. Une vraie chance. Et tout ça à titre gracieux. Il n'y avait qu'à transmettre une date. Tout s'est enchaîné et tout est allé très vite. Un petit peu comme si une partie de moi ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait.
En 2006, tout s'est un petit peu resserré. Donc là, j'avais 30 ans. Oui, j'allais sur mes 31. Donc, je suis pianiste et musicienne. Avec un de mes anciens collègues, il était prévu qu'on aille jouer en Corée en récital de piano à 4 mains. Plus la date approchait, plus je me posais un petit peu plus de questions. Je me demandais comment ça allait être, comment j'allais découvrir le pays. Donc, en sachant que j'allais partir en Corée, les autres Coréens adoptés nous ont aussi dit que ce serait un petit peu dommage d'aller en Corée et de ne pas entreprendre de démarches. Sinon, avant ça, c'est vrai qu'on parlait de la Corée comme un pays qu'on allait certainement visiter, mais on n'a jamais eu l'initiative avant d'entreprendre des démarches biologiques. Jamais avant.
On l'a même fait un peu comme un jeu, parce que les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit tous les dossiers ils ne vont pas aboutir, donc allez-y, lancez votre demande par écrit. Donc on l'a fait. Non, sans aucune attente, plus par jeu, mais seulement 3 semaines après, nous, on a une réponse. Donc, on n'était pas préparés du tout.
On a su en quelques mois qu'on avait une famille. Nos parents étaient toujours ensemble, un frère, une sœur.
C'était le choc. Voilà, le choc. Presque trop rapide.
On atterrit à l'aéroport d'Incheon, tout près de Séoul. J'ai descendu les marches de l'avion l'une après l'autre. J'ai posé le pied sur le sol coréen et... rien.
Quand je suis rentrée en Corée, j'ai eu l'impression que... de manière olfactive, ça me rappelait quelque chose. Mais peut-être que c'était l'imagination, peut-être que c'était faux, quoi. Je ne sais pas, on ne sait rien.
Ma sœur et moi, nous sommes arrivés quand on était bébés. J'avais aucun souvenir de la Corée, mais il y a toujours une couleur que j'ai adorée. C'est la couleur verte, la vert d'eau. Et cette couleur-là, je l'ai retrouvée dans les céladons, là-bas en Corée. Les céladons. Je me dis, allez, il y a quelque chose qui a parlé, alors que je ne le savais pas.
Ce qui est facile pour renouer à la culture, c'est la nourriture. C'est super bon, je trouve, mais c'est... Je sais pas ce que toi, tu penses de la nourriture coréenne.
Au début, je trouvais ça dégueulasse. Hein.
Ah ouais ?
Ah ouais, j'ai détesté, quoi. Je trouve ça vraiment pas bon.
Pour moi, c'est hyper sentimental, la nourriture. Et du coup... Enfin, moi, une fois, j'étais malade. J'étais toute triste et j'ai commandé un plat coréen juste pour me consoler, quoi.
Moi, j'étais à l'affût de la moindre émotion, de la moindre sensation, d'une odeur, une couleur, quelque chose qui me rappelle un souvenir. Mais rien. Je me sentais oppressée. Il y avait dans Séoul un bruit constant, une agitation permanente. Et puis je regardais les passants du coin de l'œil. À un moment, j'ai dit à mon mari, « Dis, c'est bizarre, ils se ressemblent tous. Moi aussi, je suis comme ça. » Il a ri.
Rester en Corée, même pas juste le contact avec la famille, mais voir oui, tous les gens qui me ressemblent. Enfin, on ne se ressemble pas vraiment fort au final, mais je veux dire, on se ressemble plus entre nous qu'avec les Belges, par exemple. Et du coup, bah, ça fait vraiment du bien parce que je me sentais pas du tout dévisagée dans l'espace public. J'ai l'impression ouais, de rentrer dans le moule et que du coup, je ne dérange pas. Ouais, je suis comme normal ou comment dire, acceptée, voilà, je suis acceptée sans rien faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Ça, c'était assez révolutionnaire ouais, comme sensation.
Quelques jours plus tard, on est arrivé dans les bureaux du Social Welfare. J'avais la gorge serrée, l'estomac noué. Je faisais les 100 pas. Enfin, une femme est venue nous chercher. Elle a ouvert une porte. J'ai aperçu des visages. Puis plus rien. Les larmes.
Déjà en rentrant dans les bureaux, je tremblais. J'étais déjà en larmes de savoir que c'était dans ces mêmes bureaux-là que 30 ans avant, mes parents étaient venus nous mettre en adoption. Et ma maman, quand elle m'a vue, elle ne pouvait plus me lâcher. C'était vraiment physique, elle avait besoin de me sentir et de savoir que j'étais là bien présente. Et la première chose qu'elle a dite, c'est « My baby ». Oula ! Donc la dernière fois qu'elle m'avait vue, c'était quelques jours après la naissance. Mes parents ont dû nous mettre en adoption. Là, elle me revoyait 30 ans après. C'était super fort. C'était vraiment indescriptible.
Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. En face de moi, il y avait trois femmes. Je me demandais ce qu'elles faisaient là. L'interprète nous a présenté. Kyung Cha, Kyung Kwa, Kyung Mi. Mes trois sœurs aînées. J'avais trois sœurs aînées. Trois sœurs aînées en plus de mon frère jumeau, Dae-hee. Il se tenait debout dans le fond de la pièce à côté d'un canapé. Dans le canapé, il y avait un couple âgé, le dos bien droit pourtant. Appa, Omma. Elle me dévisageait. Elle parlait tout bas en secouant la tête. Je cherchais son regard, mais à chaque fois elle détournait le sien. Kyung Cha, la plus âgée de mes sœurs, a dû le voir. Elle nous a fait nous lever, nous a poussés l'une contre l'autre. Et pour la première fois, j'ai senti le contact de ma mère. Son corps était dur comme de la pierre, ça m'a presque fait mal. Très vite, elle s'est dégagée et s'est rassise. Ils nous ont ensuite offert des cadeaux précieux et symboliques. Pour mon mari et moi, il y avait des alliances en or. Pour ma petite, le bracelet en or qu'on donne à la naissance. Il y avait même un cadeau pour ma maman. L'interprète a traduit que ce n'était pas grand-chose. Et moi, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, aucun son ne sortait. Heureusement, ma petite était là. Elle faisait diversion. Quelques jours plus tard, on a pris le train vers le sud. Au fur et à mesure que je regardais le paysage défiler, il devenait de plus en plus familier. Là-bas, on a revu mon frère plusieurs fois. Il nous a emmenés chez nos parents. Je n'ai pas osé leur demander pour visiter. Mais ma mère m'a accueillie. Elle m'a serrée contre elle. Et ça m'a fait moins mal. C'était plus doux. J'essayais d'imprimer chaque moment dans ma mémoire, chaque sensation. Je me concentrais en me disant « C'est chez toi, c'est ton pays. » Mais c'était comme si je n'étais pas tout à fait là. Comme si ça ne m'arrivait pas vraiment. Mon frère et mes sœurs sont venus me dire au revoir à l'aéroport. On s'est pris dans les bras.
Je me suis demandé si je la reverrais un jour.
Mon corps était revenu en Belgique, mais ma tête, elle était toujours en Corée. Mon esprit était toujours là-bas. J'étais un peu comme dédoublée. Et quelques semaines après, j'ai perdu ma voix. Je faisais ce que je pouvais, mais ça ne fait plus parler. Il y a eu trop d'émotions. Il y avait vraiment eu trop d'émotions.
Un jour, mon téléphone a sonné. Une visio avec toute la famille qui était réunie. Le téléphone passait de main en main. Mais on ne savait pas communiquer. Alors on ne s'est plus jamais rappelé. À 33 ans, j'ai appris que j'attendais une seconde fille. Je voulais la présenter à ma famille. J'ai contacté mon frère, il était enthousiaste. 8 mois plus tard, elle a pointé le bout de son nez. Quand elle a eu 4 mois et demi, on a à nouveau pris l'avion, direction Incheon. Mon frère nous a invités chez lui. Les parents étaient là. Il était tout fier de nous accueillir, de nous faire à manger. J'étais bien. J'ai aussi revu le reste de la famille. J'avais ce sentiment de vraiment faire partie du clan. Pourtant, il y avait la barrière de la langue et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un petit peu en dehors. Et puis, ils étaient là-bas ensemble et moi ici. J'étais contente de revenir en Belgique. Et en même temps, j'avais envie de rester. Je n'avais toujours pas trouvé ma part coréenne. Pourtant, elle me devenait nécessaire.
Je suis partie belge et je suis revenue à moitié coréenne. Je sais pas, c'est comme si je revendiquais mon identité coréenne. Une fois que j'ai retrouvé ma famille et que je suis revenue, tout ce qui était coréen, j'avais besoin de dire à tout le monde, mais moi j'ai retrouvé ma famille, je le ressemble et... Voilà, c'est comme si je voulais plus ressembler à une Coréenne une fois que je les avais retrouvées. Et maintenant, je suis encore plus fière de ma... Voilà, du mélange de cultures que j'ai belge et coréenne. Quand on est en Corée, enfin, on ressemble aux Coréens. Par contre, on se sent belge en Corée, parce qu'on ne parle pas la langue, on n'a pas les mêmes mimiques, pas les mêmes attitudes. Mais quand on est en Belgique, on veut ressembler à une Coréenne.
Je pense que c'est super important de se connecter à ses racines, mais je pense que même les racines belges comptent. Enfin, tu vois, c'est vraiment accepter tout notre bagage de vie, quoi. Ça, c'est important pour accepter la vie telle qu'elle est, quoi. Enfin, en tout cas, sentir que je viens d'une famille et que je suis aussi aimée par cette famille et que je les aime, ça renforce. L'amour compte beaucoup, en fait. Après, c'est un peu dommage de dire ça pour les personnes qui ne retrouvent pas leur famille ou qui la retrouvent et pour qui ça ne marche pas. Alors, au final, je pense qu'on trouve toujours une famille, enfin, que ce soit les amis ou la famille adoptive.
Un autre adopté que j'avais rencontré qui me dit « j'ai des tests ADN qui sont payés par les adoptés coréens américains. Est-ce que tu veux, ça te tente ?» Je lui dis « Ah oui, bien sûr, oui. » 3 mois plus tard, j'étais toute fébrile en voyant le résultat qui disait que j'étais complètement coréenne. Oh, surprise! Pendant 51 ans, j'ai cru que j'étais mixte, donc non, j'étais complètement coréenne. Je dis « Oh !» Ou un petit peu de japonais et un petit peu de Han, qui équivaut à dire gaulois pour un français. Ça a changé ma vie, ça a changé la poubelle, ça a changé le viol de G.I., ça a changé pas mal de choses, quoi. Tout le temps, j'étais persuadée, parce que les gens me disaient « Ah, mais t'as un physique, tu ressembles pas à une Coréenne. À mon avis, tu es alvenalv, tu es mélangé. » Et tu as probablement été le résultat d'un viol collectif. Et c'est pour ça que tu es ici, et pour ça qu'on t'a mis à l'adoption.
Petit à petit, les mots sont venus.
Il m'a fallu tout ce temps pour trouver le fil de l'histoire que je voulais raconter. Bruxelles, le 20 décembre 2020. À ma famille coréenne. Aucune lettre ne pourrait contenir tout ce que je voudrais vous dire. Tout ce que je voudrais vivre avec vous. Aujourd'hui, si je vous contacte, c'est pour vous parler d'une chose tellement importante pour moi. Je suis conteuse. Si vous saviez comme j'aime mon métier. Depuis longtemps, j'ai envie de raconter mon histoire. Je parle de choses que j'ai vécues pour dire tout l'amour maternel. Pour dire que l'on peut avoir plusieurs mamans et les aimer tout autant l'une que l'autre. Je parle de vous, de notre rencontre, de ce que ça représente pour moi. Dans le spectacle, je lis des extraits de notre correspondance. Je voulais vous le dire. J'espère de tout mon cœur que vous comprendrez à quel point c'est important pour moi, que cela part d'un acte d'amour et que vous me soutiendrez dans ma démarche. J'espère que je vous reverrai un jour. Je vous aime. Kyun. Mon frère m'a répondu via Messenger. Il me disait que toute la famille me soutenait. Et le spectacle Entre deux mères est né.
J'ai deux mères.
Le 15 novembre 2023, 39 ans après mon arrivée en Belgique, Kimura, Mélanie, Aude, Alexandra, Laetitia et d'autres personnes adoptées coréennes assistent à Entre deux mères. Grâce à ce spectacle, je rencontre d'autres personnes adoptées, de tout horizon. Chaque histoire est singulière. Et la voix de chacun et chacune doit être entendue. Depuis le spectacle, j'affirme de plus en plus ma part coréenne. Je découvre le pansori, l'art du récit chanté coréen. C'est Yann qui m'apprend.
C'est pas grave les maladresses de prononciation. Il y a une cohérence, il y a l'énergie, tout y est, il y a la spontanéité. Il y a des choses au niveau de l'intonation où c'était parfois trop haut ou trop bas. Et puis il y a d'autres moments où c'était parfait. Il faut vraiment arriver à entendre ta voix quand tu chantes.
Ouais.
Niga
mouos.
Niga mouos seulement gurionnia.
Yann est coréenne adoptée en Belgique, comme moi. Chanter, c'est un rêve de petite fille. Grâce à lui, j'appréhende enfin cette part qu'on m'a arrachée. Petit à petit, je lis sur l'histoire du pays, je me sens dépositaire de ces massacres, je commence à apprendre la langue. Au fur et à mesure de mes découvertes, de mes rencontres, j'accepte mon identité spécifique d'adoptée. J'en découvre les enjeux politiques. Je comprends qu'en faisant entendre nos récits dans l'espace public, nous, les adoptés, on produit un contre-discours au discours dominant qui n'est pas le nôtre, qui nie nos vécus et nos souffrances. C'est un acte politique en soi qui répond à l'enjeu politique de l'adoption internationale et interraciale. Kimura m'en avait déjà parlé.
Avant, les pays coloniaux allaient envahir les pays du Sud, entre guillemets, ou les pays moins développés, comme on dit. Et puis maintenant, il y a eu comme des mouvements de libération. Et donc, à défaut, ben, ils vont plus dans le pays, mais ils font venir les enfants. Parce que les enfants n'ont pas de droit. Et donc, c'est une façon de coloniser des corps étrangers en les assimilant par force, par l'adoption. Même avec l'amour ou sans amour, ça, c'est une autre question. On n'est pas des simples immigrants, on est des immigrants forcés. Pour moi, c'est ça, le colonialisme. Je ne suis pas contre l'adoption en tant que telle, je suis pour une adoption améliorée, c'est-à-dire que pour pour que l'enfant évolue sans secret.
Kimura et bien d'autres encore militent par le biais de leur art. Art plastique, photographie, cinéma, littérature. Je me dis que grâce à Entre deux mers, je donne à mon niveau le même pouvoir à l'art de l'oralité. En nous rendant visibles dans l'espace public, peu à peu, nous reprenons notre pouvoir. Nous entamons ce fameux processus de guérison. Nous retrouvons notre agentivité, c'est-à-dire notre capacité à agir sur nous et sur le monde.
C'était Racine, de Kiun Wilput et Marie-Beth Bèze. Merci à Kimura, Aude, Mélanie, Alexandra et Laetitia, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de cette création sonore. Voix narrative, Kiun Wilput. Voix coréenne de la mer, Kiun Eun Giyun. Voix française, Dominique Patuelli. Prise de son et montage, Marie-Beth Bèze. Sound design, Isa Stragliati et Léa Roger. Mise en onde et mixage, Aurélien Lebourg. Aide à l'écriture et direction voix, Sophie Clairfailly. Merci pour leur aide technique à Métix et à Delphine Dupont. Racine est une production du collectif VOA avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Atelier de création sonore radiophonique, du Centre culturel Saint-Georges, de Sourire d'enfants Larissa et du CAB, Korean Adopties in Belgium. Sans oublier tous les donatrices de la campagne Promethea.
C'est la fin de Racine, merci pour votre écoute. On avait envie de vous parler du projet en tant que tel. Racine est née de l'envie de mêler deux univers. Le mien, vous avez pu l'entendre, c'est Kyun.
Et moi, Marie, autrice et entre autres réalisatrice de documentaires. Les retours du spectacle Entre deux mers, sur lequel nous nous sommes rencontrés, ont fait prendre conscience à Kyun de l'existence d'une communauté et que cette communauté était invisibilisée. Est née cette envie de lui donner des voix.
Oui, une voix qui est nécessaire. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à dire sur l'adoption. J'avais pas l'impression que l'art vivant était la forme qui s'y prêtait le mieux. Et donc, Marie, elle pratique la forme documentaire et elle aime particulièrement mettre en valeur la parole.
Et donc, on a mis en commun nos envies, nos spécificités, ce qui a donné Racine.
Donc, ça a été l'occasion de passer du jeu, du spectacle, au nous que vous avez pu entendre dans la version radiophonique. Durant tout le processus d'Entre deux mers, il y a vraiment eu la conscience qui a émergé qu'il y a toute une lecture décoloniale de l'adoption internationale et interraciale. Donc ça veut dire que ce sont généralement des familles blanches qui adoptent des enfants racisés, des enfants qui deviennent par ailleurs adultes et qui ont besoin qu'on les voie et qu'on reconnaisse les souffrances, les violences qui ont été vécues, peu importe la manière dont ça soit passé, s'il n'est pas question d'amour mais de système. Et c'est toute cette dimension qu'on souhaitait intégrer dans le docufiction Racine.
On aimerait que cette forme artistique soit une forme d'outil pour sensibiliser, dénoncer, ouvrir des espaces de discussion et pourquoi pas revendiquer. Que ce soit aussi l'occasion de pousser plus loin la lecture décoloniale, d'en parler, que les auditorices se documentent.
En parlant de documentation, on peut déjà vous conseiller d'aller voir le site internet de Kimura Biol-Lemoine, que vous avez pu entendre dans la création sonore. Et donc ce site internet, c'est un site d'archives. IL y référence plein de liens vers d'autres sites internet, des articles, des livres, des documentaires.
Et il y a aussi le livre « Une poupée en chocolat » d'Amandine Gay, qui est pour nous un incontournable. Amandine Gay, elle a aussi réalisé deux documentaires, dont « Une histoire à soi », qui est aussi le portrait d'Adopté. Et puis plus récemment, il y a le documentaire « Adoption internationale, un scandale planétaire » de Sonia Gonzalez et Christine Tournadre.
Et puis pour clôturer, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous écrire, à partager avec nous vos ressentis, à nous faire part de vos retours. On se fera un plaisir de vous répondre. Nos adresses mail sont sur nos sites respectifs. N'hésitez pas.